Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. William fait partie de la nouvelle génération de papas qui a envie de faire équipe avec sa partenaire de vie. C'est un papa dévoué, sensible, féministe, mais aussi fragile. En devenant papa d'une petite Adèle il y a bientôt 3 ans, il ne soupçonnait pas le tourbillon dans lequel il allait tomber pieds joints. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a découvert cet instinct paternel dévorant et comment il est tombé du côté paternité de la force. De son propre aveu, William avoue parfois en avoir fait trop malgré lui, dépossédant sans le vouloir sa compagne Margot de son rôle de mère. En devenant expert en pouponnage, il est devenu plus qu'un papa poule, un papa ultra investi et inquiet de surcroît. Mais alors comment faire quand on est papa et qu'on veut se débarrasser des vieux schémas patriarcaux? Comment faire pour assumer sa vulnérabilité quand la société nous demande sans cesse d'être plus performants? William est l'un de ses pères qui contribue à libérer la parole autour de la paternité et à déculpabiliser les papas. Salut William, bienvenue.
Hello.
Merci du coup d'être là. Je sais pas si tu sais, mais t'es le premier papa à venir au micro de Rita. Donc moi je suis d'autant plus ravie parce que pour une fois qu'un papa accepte de parler sans filtre et sans tabou, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et me dire de qui se compose ta famille?
Donc je suis un jeune papa de 32 ans et notre petite famille, donc ma compagne Margot. On se connaît depuis, je suis un peu nul dans les dates, mais 7-8 ans maintenant. Et on a une petite fille, Adèle, qui a 2 ans et demi.
Est-ce que tu te souviens de votre rencontre ?
Notre rencontre, en fait, s'est produite grâce à des connaissances communes, enfin des amis communs, qui nous ont mis en relation, tout simplement. On a commencé à discuter à une époque où moi je vivais encore à Bruxelles. Elle vivait ici en Gaume. Et voilà, on a commencé à discuter ensemble. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est vus. Et puis au bout d'un moment, on s'est plus quitté. C'est quelque chose qui est assez vite devenu sérieux, dans le sens où on avait des valeurs communes et une envie en fait, d'avancer ensemble qui s'est très vite sentie, où on était bien ensemble. Donc voilà.
Ça fait partie quand même de ces papas de, on va dire, la nouvelle génération qui s'éloigne vraiment des schémas patriarcaux. Toi, comment t'as évolué au sein de ta famille ?
C'est chouette parce que ça me permet peut-être de te rendre hommage à une grande dame. J'ai grandi dans une famille nombreuse, avec ma mère au-dessus, en quelque sorte, et mon père qui était présent et qui nous accompagnait dans tous les moments de notre vie. On a grandi avec des valeurs fortes en termes de famille, en termes d'entraide, aussi parce que quand on est dans une famille nombreuse et que les parents bossent, c'est entre nous que ça se passe, quoi, entre frères et sœurs, donc faut s'aider, faut apprendre l'un de l'autre, et la manière dont un frère et une sœur vont vous apprendre des choses est complètement différente de la manière dont des parents vont vous apprendre des choses. On était très libres très tôt. J'ai pas eu de pression dans mon environnement familial pour devenir quelque chose ou quelqu'un. On nous a jamais dit « fais ça ou fais ci » parce que tu pourras faire ça plus tard. C'était plutôt une éducation, je vais pas dire une éducation sans lettres, c'est pas vrai, mais c'était « plante-toi, c'est pas grave, on s'en fout ». J'ai grandi avec 3 sœurs. Et une maman qui était femme puissante, une dame avec du caractère qui a toujours montré la voie, souvent dans les moments difficiles. Dans tous les moments difficiles qu'on a pu vivre, c'était la personne qui continue à avancer et qui vous emmène avec vous et qui vous protège, en fait. C'est pour ça, en fait, qu'on n'a absolument pas du tout grandi avec ces codes et merci, quoi, de l'homme, le chef de famille, le papa et la maman, plutôt à la maison ou plutôt avec un boulot subalterne ou à la limite un mi-temps. On n'a pas du tout grandi avec ces codes-là, absolument pas. Ma mère était indépendante, donc elle faisait son 9-18 tous les jours, 6 jours sur 7, le samedi aussi, elle n'avait pas de jour off. Et pourtant, elle était là et c'était elle qui nous a inculqué la marche, où nous on a grandi dans ce schéma-là, et mes 3 sœurs sont des femmes épanouies et indépendantes, et je suis très fier d'elles, je suis très très fier de ça, et je souhaite de tout mon possible, et je ferai en sorte un maximum que ma fille puisse grandir en dehors de ce vieux schéma et de ces vieux codes.
Comment est arrivé le projet bébé? Est-ce que vous en avez parlé assez rapidement?
Non, absolument pas, en fait... On a acheté une maison, je pense en 2018, il a fallu la rénover, ça a pris pas mal de temps, parce qu'on a tout fait nous-mêmes, surtout avec son côté de la famille, son père et son frère. Ça a pris pas mal de temps et on a finalement, au bout de 2 ans et demi de travaux, emménagé dans la maison en mai 2021. Donc on arrive dans notre chez nous, dans notre maison, c'est le début de l'été et voilà, enfin, apéro sur apéro, on se lâche, on vit bien, on va dire, jusqu'au mois de juin, donc à peine 6 semaines après, où Margot a un premier retard. Et là, ben, on se rend compte que ouais, elle est enceinte en fait. Et ouais, absolument pas du tout
pas au
prévu,
programme, quoi.
Pas au programme, pas prévu. On n'en a pas discuté.
Voilà, jamais. Tout au long de votre relation avant
ça. Si, ben, évidemment, on avait dans l'idée de fonder une famille, mais c'était pas encore le. On n'en était pas encore à se dire, bah, ok, on fait ça à partir de tel moment, on va commencer à s'y mettre, etc. On savait qu'on allait devoir à un moment donné aborder ce sujet-là, peut-être un peu plus de manière plus pragmatique, on va dire, mais c'était pas du tout prévu, donc voilà, et on apprend qu'elle est enceinte au mois de juin 2021.
Et qu'est-ce qui se passe?
C'est le drame. parce que non, c'est pas vrai, c'est pas le drame, mais disons qu'elle elle culpabilise elle énormément parce qu'elle se rend compte que ça fait 6 semaines qu'elle est enceinte et qu'en fait elle a pas du tout fait attention à son hygiène de vie. Mais on prend le temps de discuter tous les deux énormément. Et bah ok, on accepte ce qui nous arrive avec plaisir au final et on va de l'avant.
Vous avez hésité à garder cet enfant?
En fait, donc elle fait le test en début de soirée. Je pense qu'il doit être 17-18 heures. Et dès l'instant où on sait qu'elle est enceinte, on en discute quasi toute la soirée et toute la bonne partie de la nuit, je pense. Et cette question-là s'est posée sur les 3 premières minutes. Mais elle était balayée directement, quoi. C'est pas quelque chose qui est resté en suspens ou un non-dit. Ça a été très clair entre nous deux. Ok, non, c'est bon, on garde. Et...
C'était juste pas le bon timing pour vous, du coup.
Je sais pas s'il y a vraiment un bon timing ou pas.
Il n'y a jamais vraiment de bon timing,
mais,
en effet.
Mais non, c'était pas prévu, en tout cas.
Et au niveau de la maison, du coup, vous aviez encore des travaux? Vous viviez dedans à ce moment-là?
On venait d'emménager, ça faisait 6 semaines, mais on n'avait pas encore de cuisine. C'était ouais, pas de frigo, pas d'évier, voilà, les portes étaient pas mises partout, même je pense nulle part, il y avait des draps un peu partout. Et voilà, c'est une maison qu'on a rénovée nous-mêmes et dans laquelle on continue à faire des travaux, donc on l'a rénovée, je pense, une bonne partie de notre vie.
Et juste une petite précision, est-ce que Margot était sous contraceptif à ce moment-là?
Non, elle ne prenait plus la pilule depuis un petit temps, mais pas du tout en vue de faire un enfant, c'est juste simplement parce que pour son corps, c'était pas quelque chose d'idéal. Mm-hmm. Je pense pas forcément que la contraception soit quelque chose de... Ça, c'est un point de vue personnel de bénéfique, mais voilà, c'était une volonté de sa part pour sa santé.
Ok, donc à la fois, vous saviez qu'il y avait potentiellement toujours un risque.
Oui.
Mm-hmm. Donc finalement, une bonne surprise. L'entourage réagit comment?
Disons qu'on sort d'une période un peu plus difficile de mon côté de la famille, où malheureusement mon père est décédé en février 2021, et on apprend que Margot est enceinte en juin 2021. Donc on annonce ça à nos proches début de l'été 21, et oui, c'est un peu un moment de bonheur parmi la grisaille, en fait. On va appeler ça comme ça, et ça met du baume au cœur. Même si c'est pas du tout ce ne sont pas des émotions qui étaient voulues, c'est pas quelque chose qu'on a calculé, on s'est pas dit on va faire un enfant pour combler peut-être une perte ou l'absence, mais voilà, ça vient dans une continuité d'événements et d'émotions, et ça fait plaisir, ça fait énormément de plaisir aux gens qui nous entourent.
Comment vous avez vécu cette grossesse ensemble?
Assez bien, enfin c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, on a très vite pris les choses en main, que ce soit les rendez-vous pour les échos, s'organiser pour la crèche, et on a été assez lucide sur ce qu'il fallait faire, sur la manière de faire les choses. On a vraiment pris les choses par étapes, et non, ça s'est super bien passé. C'est pas quelque chose qui a été problématique. Elle a été très fatiguée au début, Margot. Les 3 premiers mois ont été compliqués pour elle à ce niveau-là. Elle dormait beaucoup. Elle a besoin de se reposer beaucoup. Mais c'est aussi, Margot, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui a un grand sens de responsabilité, malgré peut-être sa santé qui, ben, parfois était un peu moins bonne parce qu'elle était fatiguée ou autre, ou plus sujette à la petite grippe qui passe, on va dire. Elle a continué à aller bosser, elle a insisté sur le fait qu'elle irait travailler jusqu'au bout.
Et justement, on va devenir parent, ça fait peur un peu ou...
Le vertige, c'est vertigineux.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis, waouh, en fait, je vais être papa là? Et c'était pas prévu en plus.
C'est quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, me perturbe beaucoup. J'ai tendance à me poser beaucoup de questions. Et le fait de se dire, ok, je vais être papa, ou ok, ça y est, je suis papa, je me souviens parfaitement le revenir de la maternité avec Adèle sur la banquette arrière et me dire, merde, ça y est, enfin, je suis papa. C'est difficile à décrire parce qu'on n'imagine pas les choses tant qu'on n'y est pas. Et une fois qu'on y est, on est submergé déjà par tout un tas d'émotions et aussi par un sens du devoir et un sens des responsabilités qui, du coup, est décuplé. Enfin, on doit gérer un autre être humain, on doit s'en occuper à 12 000%. Si on n'est pas là, ben, c'est sa santé qui peut en pâtir ou autre. Et donc, c'est...
Mais tout à coup, tu te sens... Ouais, tu te sens responsable et... Et tu te dis que ce petit être dépend que de toi, en fait.
C'est ça.
Parce que directement, tu t'es senti investi dans le projet, dans la grossesse, quoi, finalement.
Oui. Dans les préparatifs, en tout cas, on a essayé de faire les choses tout de suite à deux, à fond, et un maximum à deux. Je voulais me sentir concerné, je voulais pouvoir l'accompagner, je voulais surtout pas être mis à l'écart, de parce que je suis le père et le papa. Parfois, par rapport aux institutions, on peut se sentir facilement mis à l'écart, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, par rapport à certaines sages-femmes, peut-être, qui ont une vision un peu plus old school, on va dire, du job. D'aborder la naissance ensemble, on a été aux échos ensemble un maximum. Quand les gens avec qui vous entrez en discussion vont uniquement s'adresser à la maman, pour que ce soit les conseils, la manière d'aborder les choses, vont exclusivement s'adresser à la maman, je comprends, mais je suis pas toujours ok. On a parfois l'impression, en tant que père, de devoir dire stop, deux secondes, je suis là aussi, pour moi aussi. C'est peut-être égoïste de ma part de dire que je suis là, mais j'ai envie de vivre le truc, donc expliquez-moi aussi, s'il vous plaît, ce que pour moi ça va peut-être faire. Alors c'est peut-être, comme je viens de dire, égoïste ou on a envie de prendre sa place, mais c'est quelque chose, oui, qui est vécu et je pense qu'il sera encore le cas. On va être stigmatisé de par notre genre et on peut parfois être mis de côté. Mais voilà, on a tout de suite été à fond ensemble dans le fait de vouloir faire les choses.
Et la première écho, tu te souviens ?
C'est ouf. On en revient à cette notion de « Ok, on va être parents ensemble. » Enfin, il y a un petit être là qui grandit et il y a un petit cœur qui bat et voilà, c'est la vie, quoi.
Et du coup, comment vous êtes préparé pour le jour J, le jour de l'accouchement ? Est-ce que toi, en tant que papa, t'appréhendais ? Parce que souvent, on pose la question à la maman, évidemment, au final, c'est elle qui sort l'enfant, mais le papa, c'est aussi un chamboulement ce jour-là, quoi.
Freestyle. Non, vraiment, on y a été... pas de préparation particulière par rapport à l'accouchement. Même Margot n'a pas fait forcément de rendez-vous spécifiques par rapport à l'accouchement. On y a vraiment été ok. En fait, ça décrit aussi un peu notre, pas notre relation, mais notre manière de fonctionner à tous les deux, où on est très parfois dans l'improvisation sur certaines choses. Alors ça peut faire peur parce qu'on n'a pas improvisé une naissance, mais on n'a pas forcément non plus préparé le jour J outre mesure. Oui, il y avait un sac qui était prêt, mais... Voilà, sans plus, quoi. On s'est présenté à l'hôpital. On avait un peu peur parce que lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, le col n'était pas forcément suffisamment dilaté. Et puis on lui a donné des...
C'est pas de l'ocytocine
Non, c'était... Si, certainement, okay. Ça devait être ça, mais c'était les petites gélules homéopathiques.
Ok, oui.
Et elle a pris ça, elle a patienté une heure et demie. Et puis quand la sage-femme est revenue pour faire le check, effectivement, ok, on va vous garder. Et voilà, dans l'après-midi, fin d'après-midi, on est monté en salle d'accouchement. Et puis ça a commencé.
Et du coup, toi, comment t'as aidé Margot dans l'accouchement ? Est-ce que tu t'es sentie utile ?
Totalement inutile pendant toute la phase de travail, où en plus Margot avait extrêmement mal. La péridurale n'a pas fait forcément l'effet escompté. Enfin, en tout cas, elle a pas mal souffert pendant la préparation. Et moi, j'étais assis dans un coin... Je savais qu'il fallait pas trop que je l'embête. Elle n'avait pas besoin de moi et elle n'a pas demandé à ce que je sois à côté d'elle à ce moment-là. Et il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui vous dit ça va aller, ou pense à autre chose, ou alors que vous êtes dans une douleur, ou un moment qui doit être juste horrible. Mais c'est quand ça a vraiment commencé, où là, oui, effectivement, j'étais à côté d'elle, et beaucoup à l'accompagner dans les gestes, à l'aspiration, et l'aider autant que je pouvais, tout en se sentant complètement inutile. Parce que l'acte en lui-même, on ne sert à rien, mais utile de par la présence, parce qu'elle est quand même au milieu de personnes qu'elle ne connaît pas forcément, en train de réaliser peut-être le plus bel acte du monde, et voilà, il faut que je pense une présence rassurante, qu'elle connaît, et j'ai essayé d'être plutôt dans le réconfort, dans l'aide aussi physique, parce que un accouchement c'est pas tout rose, c'est même un combat, et oui, je l'ai aidé à certains moments, même physiquement, à mettre au monde Adèle.
Raconte-nous juste ce moment où elle sort de Margot, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens à ce moment-là?
C'est un moment suspendu. Je suis désolé. Il y a... Adèle est née le 16 février 2021. Mon père est décédé le 18 février 2020. Un an avant. Et pendant toute cette soirée d'accouchement, Margot et moi étions persuadés que mon père était décédé le 17. Et on était le 16. Et pendant toute cette période d'accouchement, on se l'est dit... Adèle doit naître aujourd'hui. Elle ne peut pas naître le 17. Le travail s'intensifie aux alentours de 23h. 23h10. Et Margot regarde le gynécologue et lui dit « Elle doit naître aujourd'hui. Adèle doit naître aujourd'hui. » Elle ne l'a pas nommé le prénom, mais « Elle doit naître aujourd'hui. » Et le gynécologue lui dit, il regarde l'heure et dit « Ça va être compliqué, madame, mais on va s'y mettre. » Et il se passe... 30-45 minutes facilement où Margot fait son travail, et finalement Adèle naît un tout petit peu avant minuit. Elle sort, on regarde l'heure, je regarde l'heure, et il est 23h57, je pense. Ouais, moment suspendu. Elle est sur la poitrine de Margot, elle est là, et on oublie tout ce qui vient de se passer, et il y a un petit être en plus qui vient compléter cette union et ce couple qui grandit ensemble et qui s'aide pour aller de l'avant. Et c'est juste un moment magnifique d'accueillir notre fille. Et 15 minutes après, on réalise qu'en fait, on s'est planté de 24 heures et que voilà, mais tant mieux.
Ouais, c'était hyper important pour toi.
Pour nous deux, c'était aussi c'est ça qui est fou, et je pense qu'elle, je la remercierai jamais assez pour ça, mais c'est ma compagne dans les bons et dans les mauvais moments, et j'ai besoin d'elle de toute façon à tout niveau, et c'était aussi important pour elle, et ça, je trouve que c'est aussi une preuve que on envisageait les choses ensemble.
Est-ce que tu as connecté directement avec Adèle? Où ça a mis du temps?
Moi, j'ai connecté directement avec Adèle. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Depuis toujours, j'ai la volonté de créer, de fonder une famille. Et oui, j'ai connecté directement avec Adèle. J'ai absolument aucune idée de pourquoi. Je ne pense pas que ce soit une connexion instantanée avec l'enfant ou de l'amour instantané. C'est plus que j'avais peut-être des prédispositions, moi, à m'occuper. J'ai tendance à faire attention aux gens qui sont autour de moi, en tout cas aux gens que j'aime. Parfois trop, oui, clairement trop, souvent. Ça peut être négatif aussi. Et donc, évidemment, on accueille un enfant, Adèle est là, et donc, d'office, il y a cette connexion qui se fait de parce que je me sens responsable d'elle et que j'ai envie de faire en sorte qu'elle se porte bien. Et donc, tout de suite, je projette sur elle un amour inconditionnel, mais c'est peut-être plus une volonté de l'esprit que quelque chose qui se fait inconsciemment.
Il y a beaucoup de gens qui mettent du temps à connecter, parce que justement tu connais pas spécialement ton enfant et tu dois apprendre à le connaître, mais toi ça a été immédiat, donc c'était naturel finalement qu'elle soit là.
Oui.
Comment s'est passé le retour à la maison?
Là, j'avoue que c'est compliqué. On a du mal, aussi bien Margot que moi, parce qu'il n'y a pas de sommeil, la petite dort pas, on galère, on quitte l'environnement sécurisant, réconfortant de l'hôpital avec tous les soins, et ben, go, maintenant prenez votre envol et débrouillez-vous en quelque sorte, et c'est tant mieux. Mais là, c'est un apprentissage qui commence, et on en revient sur ce que tu disais avec la connexion instantanée. Bah là, justement, on apprend, en fait. On a tendance à croire que parce qu'on va peut-être connecter directement ou pas, et que c'est un apprentissage et on le sait, eh bien, on va d'office savoir s'occuper d'un enfant. C'est pas du tout le cas. Aussi bien pour les mamans que pour les papas. En fait, on ne fait juste qu'apprendre à faire les choses. Et donc, bah voilà, le retour à la maison, bah on est sur un nuage, et puis très vite... on réalise, et très vite, bah, on galère, quoi. C'est compliqué, il faut apprendre. Adèle s'exprime beaucoup, comme tous les enfants, tous les nourrissons, et puis on essaye de répondre à ses besoins, puis on se rend compte qu'on peut avoir tout l'amour du monde, c'est pas ça qui va combler ses besoins.
Comment vous avez fonctionné, en tout cas dans les premiers temps, puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de rythme, quoi, au début?
On s'est organisé sans vraiment s'organiser. C'était un peu ok, on découvre. Et là, peut-être qu'on a manqué, de pragmatisme ou d'organisation, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et on a fait un peu comme on a pu en essayant de répondre aux besoins de la petite quand on pouvait. Mais c'était un peu chaotique. Qui fait quoi quand bah, c'était pas. On ne se l'est pas dit, et on a accueilli la petite ensemble, et on a galéré en fait ensemble. Et en plus, j'ai fait l'erreur, que je ne referai plus, de recommencer à travailler assez tôt. Parce que j'avais une nouvelle responsabilité dans mon boulot. Adèle est née un mardi, et lundi suivant, je rebossais. J'ai fractionné ces 10 jours sur 3 ou 4 semaines, en prenant les fins de semaine. Dans un premier temps, j'essaye de faire en sorte que Margot se repose beaucoup, autant que la petite. Et donc, je vais plus prendre, moi, le rôle de m'occuper d'Adèle, et surtout pendant la nuit. Voilà, c'est des moments qui sont plus compliqués. Moi, j'ai un sommeil qui va être... j'ai un sommeil de merde, donc au moindre bruit, je suis réveillé. Et donc, bah, voilà, je me lève et je m'occupe d'Adèle. C'est pas du tout... c'est ni un choix, ni une action par défaut vis-à-vis de Margot. Non, c'est juste, ok, je me réveille, je m'occupe de la petite. Donc, en général, la nuit... c'est moi qui m'occupais d'Adèle. Et en même temps, Margot, elle a besoin de se reposer. Parce qu'elle vient de vivre un accouchement. Et l'accouchement, ben, c'est pas un acte anodin. Et je pense qu'il faut... S'il y a 3 mois de congé derrière, c'est pas pour rien. Je pense que 3 mois, c'est même pas assez. Donc elle a besoin de se reposer. Parce que son corps a vécu des changements qui sont quand même drastiques. Il y a la fatigue, il y a les hormones qui accompagnent tout ça. Et qui rendent les choses pas forcément faciles. Et puis ensuite, bah malheureusement, parce que j'étais recommencé à bosser, la journée, j'étais pas là. Donc quand je rentrais, j'avais aussi envie de remplir mon rôle et de faire ma part. Parce que Margot avait passé toute la journée avec la petite, et c'est pas facile à ce moment-là. Et bah, elle doit s'occuper de la petite toute seule toute la journée. Donc je rentrais, j'avais juste une seule envie, c'était de la soulager. Et aussi de m'occuper de ma fille. Donc c'est comme ça qu'on a mis un peu un rythme au début, quand j'ai recommencé à bosser. C'est je m'occupais de la petite la nuit. Margot, la journée, quand j'étais pas là, et voilà.
Est-ce qu'elle a fait vite cette nuit, Adèle?
Absolument pas.
Et donc, du coup, ça a duré très longtemps. La fatigue s'est accumulée, j'imagine.
Ouais. Je pense qu'il lui a fallu... C'était par période, mais jusqu'à ses 18 mois, elle faisait pas de nuit complète. Et avec des périodes où elle va se réveiller peut-être une fois seulement, et des périodes où elle se réveille 2, 3, 4 fois, où le réveil a lieu à 4h30 du matin et elle veut plus dormir... Donc il faut être debout.
Il faut assumer, ouais.
Ouais, faut assumer, faut être debout et go. Donc non, c'est quelque chose qui a été très compliqué. Et on commence, à partir de ces 2 ans, on a commencé à sortir un peu la tête de l'eau avec ça. Où Adèle a commencé à faire des nuits, en fait. Où elle se réveille à 8h, elle dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je ne l'ai pas entendu cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé ?»
Et là, tu trouves ça pas normal ?
C'est ça.
Qu'elle respire encore ?
C'est ça.
T'es quel genre de papa ? Plutôt stressé, détendu
Hyper, hyper stressé. Et c'est la raison aussi pour laquelle je me levais la nuit, c'est que constamment aux aguets, constamment sur ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce qu'elle fait, elle respire pas, t'es elle en train de manger, elle mange quoi, comment ça se passe, on la regarde manger, elle s'étouffe pas, voilà, et constamment aux aguets, et ça ajoute en fait ce stress ajoute à la fatigue, et ça nous met dans un état de vigilance permanente, mais qui est usant, qui est clairement très usant. Et oui, ça, c'est quelque chose que j'ai eu tout de suite. Et qui fait qu'aussi, je me suis beaucoup occupé d'Adèle. dès que je le pouvais. Non pas parce que Margot ne le faisait pas et absolument pas pour ça, vraiment pas.
Est-ce qu'elle était plus détendue que toi ?
Elle n'avait pas le temps. J'avais déjà réagi en fait. Elle n'avait pas forcément le temps de réagir et mon comportement n'est pas sain, hein, loin de là. Mais ouais, non, elle n'avait juste pas le temps. J'étais déjà en train de réagir. Et ce qui fait que j'étais très chiant, en fait, aussi. Je sais que par moments, j'ai été très chiant sur la manière de s'occuper d'Adèle, quoi. Clairement. J'aime bien faire manger, donc je faisais des préparations, etc. Et si Margot donnait quelque chose qui convenait pas et je le voyais, j'avais tendance à réagir et à overreact. Ouais, clairement, à surréagir. Dire non, stop, arrête, il faut pas lui donner ça, elle va pas s'en sortir, ça va pas aller, c'est trop gros, c'est trop petit. Enfin, voilà. Et là, j'étais juste pas cool, quoi. À côté de ça, dans la vie, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va être stressé par les événements, ou je suis même plutôt flexible, je pense. Oui, je m'adapte, mais Adèle, c'est... Ouais, c'est un peu mon univers, en quelque sorte.
Est-ce que en devenant papa, t'as l'impression d'avoir changé ?
Complètement. Parce que j'ai dû faire face à des émotions qui m'ont complètement submergé par moments, où mon corps aussi a réagi et s'est adapté, au-delà des quelques kilos en plus qu'on va choper avec la grossesse, et après on se dit je vais les perdre facile, pas du tout. Non, au-delà de ça, il y a tout un... Le corps s'exprime, moi ça a été à cause ou grâce au stress, j'en sais rien, mais en tout cas ça permet après derrière d'évoluer et de mettre des mots sur les choses, mais oui, on change complètement, et notre façon de voir les choses aussi change. Au tout début je parlais de vertige, et que c'était vertigineux, et ça aussi, ça remet beaucoup de choses en perspective, déjà rien que le monde qui nous entoure, et nous-mêmes, dans la manière dont on aborde les choses, on se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question, et c'est quelque chose qui, ouais, c'est effrayant à quel point ça peut être puissant, et à quel point ça peut nous impacter, vraiment. J'aurais jamais imaginé que le stress aurait pu me mettre à terre pendant 24 heures ou 48 heures, quoi. Et là, waouh, si. Passe un week-end au lit et parce que t'es incapable de sortir de ton lit parce que t'es complètement bouffé par le stress, c'est vertigineux.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le fait de devenir papa, de devenir parent ?
La capacité que pouvait avoir Adèle à influencer mon comportement ou mes réactions émotionnelles. Adèle pleure, je prends un coup de couteau en pleine poitrine et je suis incapable de faire quoi que ce soit tant qu'elle n'a pas arrêté de pleurer, tant que j'ai pas pu m'occuper d'elle. Et ça m'a effrayé. Et à l'heure actuelle, c'est encore difficile, mais c'est le pouvoir qu'avait Adèle sur moi dans ses réactions et ce que ça engendrait chez moi comme émotion. C'était la chose la plus waouh. Comme j'ai dit au début, un peu freestyle, ok, on va gérer, tout va bien se passer, ça va être cool. Elle va pleurer, on va s'en occuper, on va devoir changer son linge, on va lui faire manger, tout va bien se passer, ça va être génial. La vie est belle, la vie est rose, pas du tout, quoi. Ouais, c'est pas facile d'être parent, en fait. Vraiment pas. Y a plein de livres, il y a plein de podcasts, de choses qui vous informent, et vous prenez tout ça, vous essayez de vous nourrir de tout ça, et quand ça vous arrive, en fait, on fait essai-erreur, quoi. Et des fois, on doit faire beaucoup d'essais-erreurs avant de trouver un truc. Quoi.
Toi, tu t'es beaucoup renseigné, t'as beaucoup lu à ce sujet ?
Ouais. Quand je veux comprendre quelque chose, j'aime bien essayer d'aller en profondeur sur les choses. Et pour Adèle, oui, j'ai encore plus important, je pense, pour un enfant, pour le développement d'un enfant, où je veux pas qu'elle ait de barrières, je veux pouvoir lui donner un maximum de, pas de chance, mais de qu'elle ait pas de restrictions de par notre éducation. Et donc j'ai essayé beaucoup de me nourrir de choses pour comprendre. Mais en fait, c'est trop, il y a tellement qu'au bout d'un moment, on abandonne, et aussi on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est un peu chacun au feeling. Du coup, peut-être qu'à un moment donné, on prend la pile de bouquins, on la fout par terre, on dit « Ok, stop, c'est pas grave, on commence à zéro, on va faire autrement, quoi. » Avant d'avoir cette compétence de dire « Tiens, ce pleur-là, c'est pas un pleur « j'ai faim », c'est un pleur « ce truc-là me fait chier ». Mais avant de comprendre ça, t'as dû en écouter combien des pleurs ? T'as quand même dû passer par toute cette phase d'expérience et d'expérimentation qui fait que tu développes un lien avec ton enfant. On en revient sur cette histoire de lien inné ou pas. Je pense pas qu'il y ait de lien inné, mais t'apprends les choses, et de par l'expérience que tu vis, tu peux dire ouais, effectivement, t'as plus confiance en toi parce que tu sais ce qu'elle fait ou ce qu'elle est en train de vivre, et donc tu réagis, tu t'adaptes en fonction de ça, quoi. T'adaptes ton comportement. C'est l'expérience, mais t'es obligé de te planter plein de fois, quoi. Et parfois, il y a des des fois tu le plantes et ça fait mal, quoi. Clairement.
Et au niveau de ce lien, justement, avec Adèle, la maman, et toi, comment tu pourrais le décrire ?
Margot utilise un terme que j'aime beaucoup, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment ça, c'est peu importe, c'est juste full love. Et même quand t'es à 3h du mat, qu'elle pleure, et ça fait 1h30 que t'essaies de la remettre dans son lit, et que t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, t'as juste envie de la lancer contre un mur, et puis tu peux pas. finalement, tant bien que mal, t'arrives à faire les choses, t'es énervé au possible, puis elle s'endort, et c'est fini. C'est fou, hein, on est bien fait quand même. Hein.
Mm-hmm.
Et, c'est, ouais. Et ça, c'est l'amour inconditionnel.
Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti vraiment dépassé, dépourvu, et tu t'es dit « Waouh, j'arriverai jamais à m'en sortir, en fait. »
Ouais. C'est arrivé un peu avant ces 2 ans. On venait de faire les fêtes de fin d'année. On avait accueilli les gens à la maison, donc c'était, ça c'est du boulot supplémentaire, évidemment. Mais c'est rien, ça. Mais c'est, voilà, ça crée du mouvement, tout un contexte. Une fatigue aussi, il y a le rush de fin d'année au boulot, il y a la petite qui a du mal avec ses nuits, et oui, au bout d'un moment, le verre se remplit, quoi. Et on s'en rend pas forcément compte, et j'ai tendance à faire 1000 trucs en même temps, en termes d'activité, et je dis oui à tout, donc je prends un peu tout ce qui passe comme activité, et même si j'aime bien être à la maison, mais on a beau aller de l'avant et avoir cette volonté d'aller de l'avant. On se parlait de ma mère tantôt qui nous a un peu inculqué cette manière de faire, de dire ok, c'est pas grave, il peut y avoir des soucis, on va, de toute façon on avance et de toute façon on apprend. C'est, si c'est pas le mental, c'est le corps qui dit merde. Et il y a un matin, c'est un jeudi matin, je dépose Adèle chez ma mère. C'est ma mère qui s'en occupe le jeudi. Je dépose Adèle chez ma mère et je retourne dormir. Et j'ai dormi 2 jours. Je suis resté 2 jours au lit. Et en fait, c'est de la douleur intense, poitrine, mal à la tête, mal au dos, l'impression d'avoir des coups de couteau dans les omoplates. On se dit, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et je me souviens, je vais chez le médecin début de semaine après, et je lui dis... cette phrase, et il a rigolé, mais je pense qu'il a compris aussi tout de suite. Je lui ai dit, docteur, je vais bien, mais mon corps me dit merde. Et il me dit, oula, c'est bizarre ça comme approche. Mais j'allais bien, dans ma tête j'allais bien, tout allait bien. Et non, c'est juste le corps qui dit, tu t'arrêtes maintenant.
T'as été en arrêt ?
Non, parce que... Et ça c'est un truc, c'est l'héritage peut-être... de l'éducation ou aussi de notre système et de notre manière de fonctionner, faut rester fort. Et un homme, ça doit être fort. C'est bête, hein, c'est con, mais non, pas en arrêt. Le docteur me dit, on s'arrête, on fait quoi ? Non, faut que j'aille au boulot. Ils vont penser de quoi au boulot ? Si je leur dis que je craque parce que j'ai dur à la maison et que bah, c'est compliqué de s'occuper d'un enfant. Qu'est-ce que je vais donner comme image, moi ? Qu'est-ce que les gens vont penser ? On se tait, prend sur soi. Mais je m'en veux de réagir comme ça, de réfléchir comme ça. Ce schéma de performance et de paraître, il faut répondre au code, il faut bien faire les choses, il faut mettre des photos de vacances avec la petite, il faut être souriant, tout va bien, ça va, tout va bien, ouais, tout va bien.
T'as l'impression qu'on n'est pas assez transparent sur le fait de devenir parent ?
Oui, on doit, pour le bien-être des personnes, être plus transparent et s'autoriser plus, se permettre plus.
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le burn-out parental est souvent associé aux mamans.
Et on l'a associé aux mamans parce qu'on décrète de base que les mamans ont ce fameux instinct maternel qui fait qu'elles sont compétentes dans tous les domaines pour accueillir et pour aider un enfant. Et donc, on leur donne cette charge... d'accueillir et d'aider un enfant. Et donc, d'office, elles prennent tout sur leurs épaules et au bout d'un moment, ça craque. Il faut libérer une certaine parole par rapport à ça, par rapport à la santé mentale, aussi bien des mamans que des papas. Mais ça, je pense que ça rajoute à ce que je disais avant. Il faut absolument aussi déconstruire les schémas et les codes, de dire que c'est la maman qui gère. C'est pas vrai. La maman n'est pas plus compétente que le papa pour gérer. Absolument pas. Oui, elle a mis au monde l'enfant, 100% d'accord, et merci mesdames, enfin, sans vous on serait pas là, quoi. Mais vous êtes pas instinctivement plus compétente que les hommes pour vous occuper d'un enfant. Le chamboulement, il est physiquement présent pour la maman, et ensuite, il est mentalement présent pour les deux, et la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et je fais juste une petite parenthèse parce que ça me semble important de le dire. Cette fameuse charge mentale que je vais peut-être plus assumer, c'est pas forcément une volonté et c'est pas au dépend de ma compagne. Donc je ne l'assume pas parce que je dois l'assumer, parce que sinon ça va pas. Non, pas du tout. C'est un comportement de ma part qui n'est pas forcément hyper sain à la base, de vouloir m'occuper à fond d'Adèle et donc de prendre les choses en main. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne le fait pas, pas du tout, c'est juste moi qui peut-être l'ai trop fait. Et donc, on se met ce poids sur les épaules et on a mis une brique, pourquoi on n'en mettrait pas une deuxième, une troisième, une quatrième au final, parce qu'on sait le faire.
Est-ce que tu as l'impression de prendre trop de place ?
Oui, clairement, on en a... Mais après ce petit épisode, cet épisode un peu compliqué, on a beaucoup discuté, communiqué, et voilà, on fait évoluer les choses maintenant de manière peut-être un peu plus saine, pour que ce soit OK pour tout le monde, et qu'on puisse donner un cadre aussi à Adèle qui soit le plus sain possible. Typiquement, Adèle, avant ses 2 ans, c'est t'as fait caca Adèle, il faut te changer. C'est Margot qui constate ça, qui va lui demander, et Adèle dit non. Margot insiste, et elle va lui dire si, on va te changer. Et Adèle va lui dire papa qui change. Et Margot pourra pas la toucher, quoi. Elle pourra pas la changer, la petite va pas se laisser faire du tout. Et là, plutôt que de peut-être dire si Adèle, c'est maman qui va te changer, et qu'on soit à deux ok avec ce message-là, et qu'on appuie tous les deux ce message-là, avant j'aurais dit à Margot, laisse, je m'en occupe, je la prends, je vais la changer, c'est fait, on évite les problèmes, on évite les pleurs, on évite la crise, on évite tout ça. Margot est en train d'habiller Adèle, et en fonction du temps, évidemment, on la couvre ou pas, et donc Margot décide d'une tenue, et la petite se bat, et elle hurle, et elle se bat avec ses pieds, avec ses mains, et elle frappe, et j'entends, je suis en bas, je suis en train de préparer le repas, et j'entends que c'est la guerre, et j'arrête ce que je fais, je monte en haut, je prends la petite, et je change, et c'est réglé, et je vais peut-être même dire et je vais avoir le comportement horrible de dire à Margot regarde, voilà, faut faire comme ça, et ça c'est horrible je trouve, et c'est pas bien, mais c'est pour éviter que ça crise en fait. Et là maintenant, non, on va peut-être faire front plus à deux, et on va dire non Adèle, c'est maman qui te change, et on sent un changement aussi maintenant, on commence à sentir ce changement, ça fait 6 mois, et Adèle va beaucoup plus près de sa mère automatiquement, enfin d'elle-même, elle est où maman, qu'est-ce qu'elle fait maman, tiens je vais voir maman, qu'elle faisait peut-être moins avant. Et ça aussi c'était dur à vivre pour Margot, parce que elle était maman, et sa fille, c'est pas qu'elle la rejetait, mais sa fille allait systématiquement vers son papa. Alors il y a ce fameux cette espèce de concept d'Oedipe, mais je pense pas que ce soit réalisable avant 2 ans, parce qu'elle comprend pas ses émotions forcément, mais oui, elle venait constamment vers moi parce que j'étais trop présent auprès d'elle, et parce que du coup au moindre pleur, c'est moi qui allais calmer la petite, et on crée un mécanisme en fait, qui du coup fait bulle de neige. Si c'est constamment la même personne qui va calmer l'enfant, l'enfant, dès qu'il est en crise, dès qu'il a un problème, il va vers cette personne. Et donc, ça se renforce, en fait. Et c'est pour ça que je disais... on parlait que j'avais peut-être la charge mentale ou autre. Oui, mais ça n'est pas arrivé de manière décisionnelle. C'est un mécanisme qui s'est mis en route parce que j'avais un comportement trop présent vis-à-vis de la petite. Il y a des petites choses qui sont encore juste dingues et insensées, quoi. Si on est à deux en voiture, Margot ne peut pas descendre la petite de la voiture. Parce que la petite, c'est impossible, quoi. Elle va pas se laisser faire.
Vous avez trouvé un nouvel équilibre plus chouette ?
Oui. On compartimente beaucoup plus les choses. Et on est beaucoup plus à deux dans l'évolution d'Adèle. C'est chouette. Parce que même la petite s'épanouit différemment. Et il n'y a rien de plus chouette que de les voir évoluer ensemble. C'est vrai que les 2 ans et demi, là, ça fait 6 mois que c'est la guerre, mais on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. C'est pas toujours facile, on prend des raccourcis parfois, Mais on essaye.
Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant de devenir papa?
Ça, ces erreurs-là, qui ont des implications bien au-delà de la petite crise. Faire en sorte de savoir gérer une petite crise, mais la manière dont je vais me comporter à ce moment-là vont impliquer beaucoup de choses pour ma compagne, pour moi, pour la petite, mais dans le temps. Et on ne se rend pas compte qu'on met plein de petites pierres et que, bah merde, en fait, ça fait un gros tas qui est difficile à bouger après. Ça, j'aurais franchement aimé accepter d'entendre ça. Parce qu'avant de le vivre, on se dit, bah non, ça m'arrivera pas.
Qu'est-ce que toi, tu dis aux parents que tu rencontres maintenant? Est-ce que ton message a changé, du coup, depuis que t'es papa?
C'est OK de pas être OK. Faites-vous confiance à 200%. Soyez à l'écoute, beaucoup, l'un de l'autre. Pas forcément des conseils extérieurs. Toute aide est bienvenue et toute aide, je pense, part d'un bon sentiment. Mais surtout, 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 communiquez entre vous de manière 100% transparente et pas avoir peur de dire ses émotions tant qu'on les transmet à l'autre de manière constructive. Parfois, c'est mieux peut-être de dire « tu m'emmerdes, tu me fais chier, j'ai pas envie ». Il faut communiquer plus de manière transparente sur ses propres émotions, sur ce qu'on ressent. Éviter de succomber aux injonctions de performance ou code. Il doit faire ses nuits à partir de tel âge, elle va faire sa première dent à tel âge, elle va faire son premier caca dans le pot à tel âge. C'est des conneries. Il n'y a pas de normes.
J'ai une autre question pour clôturer ce podcast. Tu disais que à la base, tu rêvais d'une famille nombreuse. Tu disais aussi que finalement, il n'y aura pas de deuxième.
Il n'y aura pas de deuxième, on ne sait pas. Disons que famille nombreuse, moi, c'était 3 ou 4, mais ça, c'est sûr que c'est non. Deuxième, on ne sait pas, parce qu'il y a des raisons, pour l'instant, qui nous poussent à vouloir un deuxième enfant, mais encore une fois, ce ne sont pas des bonnes raisons. On veut un deuxième enfant pour pas qu'Adèle soit seule. Ce n'est pas du tout des bonnes raisons. Donc, on doit encore mûrir cette décision et voir un peu comment on aborde les choses et la vie de manière générale, parce qu'au final, c'est un plan de vie, hein, qu'on construit en faisant un enfant. Je disais juste avant, il faut être aussi un peu égoïste. Il ne faut pas s'oublier soi-même dans cette volonté de faire une famille. Il y a des gens qui sont très heureux dans le fait d'avoir une famille nombreuse. Je l'aurais été, j'en suis sûr, mais je refuse de m'imposer cette charge mentale pour le reste, enfin pour les 20 prochaines années. Je comprends maintenant toute l'implication émotionnel, physique que peut être un enfant. Je refuse de me soumettre à ça pendant autant de temps et au final passer un tiers de ma vie à m'inquiéter et à être psychologiquement dans un état de veille permanente pour mes enfants qui sont en bas âge. On n'a qu'une vie et j'ai envie de la vivre sans m'imposer une charge trop importante. J'ai pas envie de subir, en fait. J'ai envie de pouvoir vivre. On apprend ses erreurs, donc faut jamais dire jamais. Mais on doit encore y réfléchir.
Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à ce podcast.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou 5 étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres, bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tourbillon.